Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdivois et c'est l'heure de l'interview avec au studio aujourd'hui Fred Duvaux. Bonjour.
Bonjour.
Fred, tu es ici pour nous parler d'un spectacle que tu vas donner ce mercredi 11 septembre à 20h. À partir de 20h, donc, ça se passera à Louvraison, à l'ancien gîte Roquebel, à Recoubeau-Jansac. C'est un spectacle qui a un trait au Scrabble.
Oui. Oui, enfin, je ne suis pas un passionné de Scrabble, mais effectivement, ça s'est présenté comme ça, que c'était le bon objet pour ce que j'avais à raconter. Alors, je précise qu'effectivement, alors moi, je suis présent avec d'autres personnes d'un collectif qui s'appelle le Front de l'Est. Pendant 4-5 jours, on va bosser autour de la parole collective, mais... À l'occasion de ma venue, vu que je suis encore en création sur ce spectacle, même si ce spectacle est écrit déjà au plateau. Et en plus, là, je suis venu avec le décor et avec le format, parce qu'il y a de la vidéo aussi est en rodage. Donc c'est un chantier, mais un chantier, on va dire, du spectacle relativement stable. Voilà. Mais sa création définitive se fera dans mes terres. Moi, je suis alsacien. Donc, la création définitive se fera début 2025 à Erstein, qui est près de Strasbourg.
Voilà. Alors, ton métier est avant tout conteur, hein ?
Oui, c'est ça. Je me présente comme... parce qu'il faut des étiquettes pour essayer de repérer un peu. Essentiellement, moi, je travaille dans l'oralité. De toute façon, je me dis comédien-conteur parce que je vais aussi jouer au plateau et puis qu'on va se retrouver avec... pas seulement conteur comme on peut se représenter, mais effectivement en plateau, en balade contée, en déambulation, dans des situations de rue, etc. Mais toujours à partir de cet outil qu'est l'oralité, qui nous amène dans le répertoire du conte, mais des fois au-delà, des fois dans de l'écriture. Là, par exemple, c'est le cas avec le spectacle « La partie de Scrabble », où c'est du théâtre-récit, on va dire, du seul en scène. Là, je suis encore conteur parce que c'est ma nature, mais on est clairement pas dans le répertoire du conte, ou du mythe, ou etc., qui sont traditionnellement les outils du conteur.
Alors, ce spectacle mêle-t-il le conte avec le hasard ?
Alors, oui, alors là, on est dans le processus de comment est né ce spectacle et pourquoi, etc. C'est très, très simple, c'est que... je vais raconter ça comme une histoire, voilà, ça va être... c'est que j'étais en train de me demander, bon, quand est-ce que tu te bouges, Fred, et que tu fais une nouvelle création ? Et j'étais parti sur divers... J'avais créé un spectacle, on va dire théâtre-récit déjà, qui mêlait un peu plus... le conte, l'univers conté, etc., mais qui était quand même raconter une histoire familiale. Donc et l'histoire familiale, c'était qu'effectivement, j'avais hérité comme ça des lettres de correspondance de mon grand-père à ma grand-mère, qui était officier en Indochine, et il avait disparu, et on n'avait plus que ces lettres-là. Mon père, ma mère elle-même n'avait pas connu son père. Voilà. Et donc, avec ces lettres, je voulais en faire quelque chose. Et de ce grand-père, on me disait souvent, il te ressemble, il a disparu en Indochine. Et moi, quand j'étais petit, je me dis, s'il a disparu, c'est qu'on peut le retrouver. Voilà. Et l'Indochine, j'ai regardé sur une planisphère, ça n'existe pas. Donc, je me suis imaginé, à partir des bribes de ce qu'on me disait, des expéditions de recherche imaginaire pour retrouver mon grand-père. Et ça a été l'argument de base pour faire ce spectacle-là, qui était le premier spectacle de récit familial, où je me servais à la fois de ces correspondances et en même temps de cet imaginaire d'enfant puis d'adolescent qui, avec les moyens du bord de ce qu'on lui dit, s'invente des odyssées spatiales à la façon du Club Dorothée et de tous les animés japonais de mon enfance. Et un peu plus tard, vu qu'il y a très très peu de choses sur l'Indochine, qu'à ce niveau-là, la France ne raconte pas, Elle est très taboue sur ces guerres-là. Hein. Ensuite, utiliser la guerre du Vietnam et toute la cinématographie qu'on a sur le Vietnam pour essayer de raconter mes expéditions imaginaires et après se confronter à la réalité. Donc ça, c'est mon premier spectacle. Je dis ça parce qu'effectivement, ça a un petit peu nourri après ce second travail qui est la partie de Scrabble. Donc j'étais en pleine recherche quand tout d'un coup, mon père qui est malade me dit « Écoute, il faut que tu t'occupes de ta maman là pendant 4 jours. » Et ma mère, elle était déjà bien diagnostiquée, atteinte d'une maladie neurodégénérative. Et qu'effectivement, il était inquiet parce qu'il était à l'hôpital plus longtemps que prévu et qu'il fallait s'en occuper. Et moi, je lui ai dit « Écoute, je suis dispo s'il le faut. » Et je suis parti 4 jours à m'occuper de ma mère. Et la meilleure façon de s'occuper de sa maman pendant 4 jours, ça a été de jouer au Scrabble, puisque le Scrabble chez ma mère a des vertus d'apaisement. Et puis c'est une femme de lettres, c'est une orthophoniste à la retraite, donc elle avait un rapport au langage technicienne, j'ai envie de dire, mais elle est impitoyable. Au Scrabble, et donc je me suis retrouvé à beaucoup jouer au Scrabble et ensuite une amie qui est ergothérapeute me disait ça fonctionne pour ta mère comme un objet transitionnel, c'est-à-dire quelque chose qui va effectivement te permettre toi la relation. Donc c'est une correspondance qui se fait entre moi et elle dans une situation très très particulière via effectivement l'enchâssement des mots, des lettres, etc., de toute la poésie, l'évocation de souvenirs, etc., tout ce que ça peut tirer comme ficelle. Et ça, c'était, le leitmotiv de départ. Et par la suite, je vais raconter les choses un peu, mais par la suite, mon père est décédé. Et je me suis retrouvé dans une situation beaucoup plus longue avec mon frère et ma sœur d'accompagnement de ce qu'on appelle proche aidant. Et donc, je me suis retrouvé avec ce spectacle que je voulais faire sur le Scrabble initialement, puis après, petit à petit, pris dans la vie, dans les obligations de devoir. Et donc, l'objet a bougé, mais pas tant. C'est que finalement, je me suis retrouvé à essayer de raconter cette situation de proche aidant dans le temps, dans l'accompagnement d'une maladie neurodégénérative avec ma mère, etc. Et comment cette partie de Scrabble survit à cette maladie et à ce changement de position où j'étais fils, où je deviens presque mon père à un moment donné dans l'accompagnement. Et voilà, c'est comment on vit ça. Et c'est vrai que après ce spectacle, j'ai pu le jouer avec des situations, pour des personnes qui sont en situation de proche aidant. Donc sans avoir été dans des associations de proche aidant, c'est vrai que du coup, je me suis retrouvé à beaucoup parler avec des situations, avec des personnes qui ont des situations similaires et que ça m'a beaucoup nourri pour la création de ce spectacle. Voilà. Qui reste, malgré le fait qu'on va dans le dur, hein, j'ai envie de dire, qui reste, je l'espère, parce que c'est ma nature, ludique, sensible et drôle, et lumineux surtout, puisque c'est cet objectif-là. Voilà.
Une belle introduction. Et donc, l'apport du Scrabble dans ce spectacle, sans dévoiler non plus la teneur, en quoi consiste-t-il ?
Eh bien... C'est tous ces petites... tous ces petits trucs alors, je raconte qu'au départ, le jeu de Scrabble, ça évoque quoi pour les gens ? Alors, je pose des questions très bêtes. Hein.
C'est en quelque sorte un échange avec le public.
Oui, au départ, ouais, c'est je viens. C'est quoi notre fond commun avec le Scrabble ? Bon, ne nous le cachons pas. C'est un peu un jeu de vieux pour nous. Un vieux jeu, puis un jeu de vieux, et puis voire un jeu de vieille, que c'est rattaché à des choses qui, des fois, sont c'est le dimanche après-midi, on s'ennuie, c'est après le repas. C'est forcément un peu pour faire plaisir à quelqu'un qu'on fait, on joue pas spontanément. Alors bien sûr, maintenant, il y a du Scrabble Go, il y a vraiment des gens qui sont passionnés. Moi, je suis amusé à aller un peu plus loin, à aller voir ce que ça donnait dans les championnats interdépartementaux. voilà. Et effectivement, ça déroge pas la règle. Hein. J'étais, je suis allé dans un championnat interdépartemental. Il y avait 120 personnes dans un gymnase. C'était essentiellement des mamies, hein, et des vieux garçons, des comptables. Et eux, ils gagnent. Voilà, qui sont très concentrés, puisque là, c'est... Donc, j'ai découvert le scrap duplicate. Je suis allé un petit peu dans l'univers pour m'amuser un peu à ça. Mais c'est plutôt, effectivement, en quoi ça nous relie à l'enfance, en quoi ça nous relie à la famille, souvent, en quoi ça nous... en quoi le bah, moi, ma relation à ma mère, les petits trucs qu'elle m'apprend, ou qu'on sait, à un moment donné, c'est des petits savoirs aussi. Les mots avec qui commencent par un W, qui sont très pratiques quand tu joues au Scrabble. Woo, won, woots, wednesday, ewe, wale, je connais pas mal. Les petites choses intimes qu'on peut avoir, que le Scrabble nous amène, c'est quand t'as un H en fin de partie, t'es pas perdu. Tu vas t'en sortir. Il y a forcément un A, un E, un O, un petit I, mais pas le U. Malheureusement, tu as besoin d'un E. C'est toutes ces petites choses-là. Ou alors, attends, est-ce qu'on peut faire OK ? Non, on peut pas. C'est interdit par le Scrabble. Et aussi, toutes ces petites choses contemporaines, mais ça, je raconte pas, mais effectivement, il y a des mots qui sont interdits maintenant en Scrabble parce qu'ils sont jugés comme homophobes ou racistes ou etc., ou qui continuent à porter... Voilà, donc à l'intérieur du Scrabble se jouent quand même pas mal de choses familiales, sociales, et aussi tous ces petits savoirs qui sont œuvres de complicité, qui peuvent donner. Par exemple, ma mère, là où elle m'a à chaque fois, c'est qu'elle est orthophoniste et qu'elle maîtrise parfaitement les verbes. Et d'ailleurs, c'est un petit savoir que j'ai appris, c'est 80 à 85% des Scrabbles, ce sont des verbes conjugués. Maîtriser, c'est pas assez simple, c'est subjonctif. Donc, c'est un rapport à la langue, en fait. Voilà. Et à l'intime de la langue.
Et en fonction des pays, il y a aussi l'alphabet qui diffère. Hein,
bien sûr.
En fonction de oui. L'utilisation des voyelles, voilà. Notamment, hein, avec l'anglais.
Bah ouais, bah ça, je le raconte un tout petit peu, effectivement. Bon, je dévoile un peu le spectacle, du coup, mais tant pis. C'est que je me suis amusé à voir ce que c'était en finnois, par exemple. En finlandais, la seule lettre qui vaut 10 points, c'est le C. Voilà. Donc, c'est aussi les particularités de chaque langue. Effectivement, l'anglais, le W, le Y, le K ne valent que 4 points, forcément. Donc, il y a ça aussi. Il peut y avoir d'autres différences plus structurelles. Voilà. Et pour l'anecdote, ce qui est très drôle, c'est de savoir que jusqu'au Covid, puisqu'à un moment donné, comme il était anti-pass, anti-vaccin, il n'est plus venu. Mais jusqu'en 2019, le champion international de Scrabble francophone, il s'appelle Nigel Richards, et il est néo-zélandais. Voilà. Et il ne connaît pas un seul mot, il ne parle pas du tout français, mais il a simplement appris le dictionnaire Larousse officiel par cœur. Voilà.
Ces mots qui se présentent sur ce tableau,
oui.
Est-ce qu'il inspire le spectacle ou alors il y a déjà... D'ailleurs, c'est en fait, c'est une reconstitution de partie, c'est une partie
c'est
qui se constitue, qui se
c'est
crée.
Ça. C'est la partie raconte ce parcours que j'ai eu, cette chronologie. Mais c'est une seule partie pour raconter cet accompagnement et cette situation. Là encore, je dévoile un peu, mais c'est mon frère qui m'avait donné la clé parce que j'étais quand même bien empatouillé avec tout ça. Et mon frère, une fois, on discutait, puis il me disait « Mais en fait, le Scrabble, Scrabble, to Scrabble, ça veut dire griffonner, brouillonner, faire des pieds et des mains, tâtonner, boitiller. C'est tout ça le Scrabble. C'est devenu très technique. Et maintenant, avec le voilà, mais en fait, c'est ce côté hésitant quand on est là en train de façonner nos petits mots dans le chevalet, etc. Et c'est aussi la situation du proche aidant qui doit à chaque fois, dans ces situations de maladie. En plus, ma mère a une maladie orpheline, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent avec l'Alzheimer, il n'y a pas d'équivalent avec le syndrome parkinsonien, c'est entre les deux. Et donc, on tâtonne à chaque fois à essayer de comprendre. Voilà, on est aussi dans ce boitillement en tant que proche aidant. Donc c'est une métaphore parallèle.
C'est un jeu de patience également, hein, quand on attend l'adversaire pouvoir établir son mot.
Oui.
Soit ça peut prendre du temps.
C'est ça. Il y a ça aussi.
Il y a ce côté agaçant que je ressentais enfant avec la famille quand on jouait à plusieurs, à quatre ou cinq. Enfin, quatre. C'était parfois crispant. Enfin, c'était.
Ah oui, bah, y a des abandons de partie. Des fois, bah, vous me... un balancement des lettres. Hein, je veux dire. On a tous. Voilà.
Alors, il y a. Tu citais en début d'émission le Front de l'Est.
Le Front de l'Est. Alors ça, c'est un collectif.
C'est un collectif, oui. On peut en parler un peu, justement.
Voilà, il y a donc Mathieu Epp, qui est maintenant du coin, hein, qui a... Alors, je connais plus... Recambonda, comment il s'appelle, Recambo?
Alors, le lieu dit, c'est le gîte, l'ancien gîte de Rocobel.
Rocobel, voilà. Bon, mais qui... Avant, était, donc Mathieu Epp était du côté de l'Est, enfin il était à Strasbourg. Et donc c'est le Front de l'Est, ce n'est pas une compagnie, c'est un rassemblement de trois compagnies et même un rassemblement de compteurs qui partageaient, avant qu'on parle même de la région Grand Est, qui avaient envie de travailler sur ces grands territoires-là que sont l'Alsace, la Moselle, la Meuse, Champagne-Ardenne, etc. Et qui partageait aussi des affinités vis-à-vis du conte, de vouloir raconter à plusieurs, de raconter aussi à l'extérieur, de travailler sur le territoire, de se poser la question, c'est bien beau de raconter, mais qu'est-ce qu'on laisse comme trace dans le territoire ? Voilà. Donc on partageait certaines envies communes, et puis ça a commencé tôt, en 2010, et on a eu... On se disait un moment de gloire. Entre 2015 et 2017, on était très actifs. Mais on a toujours su revivre, soit par le truchement d'un appel à projet du territoire. Là, ça va être le cas dans la Meuse, sur le territoire de Montmédy. On va retravailler comme ça. Mais au-delà, là, par exemple, on s'est rassemblés pour rien. Enfin, pas avec aucun prétexte autre que travailler ensemble, se poser la question de comment travailler un territoire, comment travailler une œuvre collective, une œuvre du patrimoine universel. Voilà. Et là, on brasse un petit peu avec nos expériences, nos savoir-faire, les différentes techniques qu'on a. Voilà.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du Diwa.
107.5.
101.7
FM.
C'est en quelque sorte un lieu d'expérimentation aussi, en cours. Et c'est ce qui va se produire donc ce mercredi 11, avec justement le soutien ou l'aide d'autres personnes, hein, de ce Front de l'Est.
Bah, on a sans doute envie de montrer ce qu'on va... voilà, là, le but, ce n'est pas une restitution, c'est qu'on cherche. Et si à un moment donné, avant le spectacle, il y a l'occasion de montrer un tout petit peu ce qu'on a cherché, voilà, à l'extérieur, a priori, enfin voilà.
Cette présentation est aussi dans la continuité d'une tournée actuellement.
Alors là, pourquoi ? Pour la présentation du Scrabble
du Scrabble.
Alors revenons au Scrabble. Oui, alors l'objectif de ce spectacle... C'est qu'il joue au plateau, mais qu'il soit, par exemple, là, moi, là, c'est un défi parce qu'il a un petit peu cassé entre-temps, c'est que je suis venu avec, a priori, le décor. C'était un gros machin, etc., qui reproduit, que je sois en mesure très vite d'avoir transportable en train, éventuellement. Donc, autonome, un vidéoprojecteur, un écran, une table et très vite de quoi habiller de façon uniforme trois chaises pour reproduire n'importe où ma scène. Et que la scène, et on va faire une création de lumière, mais cette création de lumière, elle sera valable sur un 12 circuits et s'il n'y a que deux projo-faces, ça suffit. Même s'il n'y a rien, ça suffit. Mais s'il y a un plateau, voire même un beau plateau, c'est possible aussi. Et il y aura la scéno pour ça. parce que l'objectif, effectivement, de pouvoir le jouer dans beaucoup, beaucoup d'endroits différents, notamment dans le réseau hospitalier. Voilà. Alors, moins pour le personnel, moins pour les résidents d'EHPAD ou de résidents seniors, mais pour le personnel soignant, pour les associations de proches aidants. Voilà. Et effectivement, là, dans cette période qui commence maintenant, qui commencera le mercredi 11, de rodage, j'irai par exemple au Noël des orthophonistes de Moselle pour présenter, donc pour les orthophonistes, ce spectacle-là. Et à un hôpital aussi, je vais présenter, pour le personnel soignant, je vais présenter ce spectacle-là. Donc c'est aussi pour ces gens-là.
Ce spectacle, hein, on peut le dire comme ça, c'est plus qu'un spectacle.
C'est un récit de vie qui est, dont le travail difficile pour moi, ça a été de me dire mais quand est-ce dans la création, c'est quand est-ce que je l'arrête, parce que c'était il y a des gens qui vont travailler par exemple sur le deuil de quelqu'un qu'ils ont perdu, etc. Mais c'est fait. Moi, le problème, c'est que mon objet, il continuait d'évoluer. Et c'est à un moment donné, j'ai su l'arrêter. Mais oui, c'est un spectacle qui est un témoignage aussi, clairement. Voilà.
Alors, c'est ouvert à tout public, à partir de 12 ans, peut-être.
Oui, j'ai dit à partir de
12
ans.
Alors, est-ce que c'est un impératif, cet âge, ou ça peut être plutôt si l'enfant connaît un peu le principe, ou s'il en joue?
C'est là, il faut avoir une certaine habitude de spectateur, c'est surtout ça. Et avoir quand même des outils de... Voilà, j'ai mis à partir de 12 ans, mais l'objectif, c'est que s'il y a un enfant de 10-11 ans qui arrive, qui débarque là, bien accompagné, etc., qui ne s'ennuie pas et que la scénographie aidant, il ait quand même des repères, voilà.
Disons qu'il n'y a pas de jeu de Scrabble à disposition des enfants en attendant que le spectacle se termine.
Non, mais c'est la grande question de qu'est-ce que, pour la petite anecdote, j'étais tout d'un coup hyper speed en pleine création à me dire ah mais est-ce que j'ai le droit? Parce qu'il faut, c'est qu'en fait j'ai dû demander à la société qui est maintenant là, parce qu'il y a eu plusieurs. Maintenant c'est la société Mattel. Donc j'ai dû appeler Mattel et j'étais angoissé pendant un mois. Je me disais, mais j'ai les droits, donc je peux véritablement dire la partie de Scrabble. Et parce qu'à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je crée un jeu alternatif qui ressemble au Scrabble, mais pas tout à fait. Et ils m'ont offert des jeux et je me suis dit, j'ai plein de jeux là. Tu vois, et est-ce que je fais des ateliers comment se servir de ce jeu et plus lointainement des jeux de société comme effectivement outil de récit et je sais pas encore, mais c'est sujet à réflexion, c'est comment on peut accompagner aussi en termes d'action culturelle et en termes d'action de sensibilisation ce spectacle là voilà.
Dans ce délai d'attente d'autorisation, est-ce que vous aviez commencé à créer ou à proposer des noms en alternative
du
Scrabble?
Non, je trouvais que le Scrabble, c'était ce qu'il fallait, qu'il fallait dire. Voilà. Donc non.
Le Front de l'Est, je reviens dessus, c'est un désir aussi donc, de plusieurs artistes à collaborer, à travailler vers quel but, en quelque sorte?
Le but, c'est à chaque fois, ça a toujours été de raconter à plusieurs, raconter en chœur, raconter dans et pour un territoire aussi, c'est-à-dire s'approprier un territoire, rencontrer les personnes de ce territoire, rencontrer d'autres partenaires qui ne sont pas forcément liés même au spectacle vivant, des géologues, des archéologues, des scientifiques, des personnes qui sont dans le domaine du jeu vidéo, etc. Donc, de travailler le collectage. Donc c'était déjà ça. Et puis l'objet est de travailler... d'interroger le plateau, de créer d'autres. Par exemple, on a une petite histoire maintenant. On s'était retrouvé par exemple dans un territoire qui était la Meuse. Je parle d'une expérience qu'on a faite, qui est l'expérience collective écrite la plus aboutie, où ça nous a, voilà, on a eu pour ça des subsides pour pouvoir. L'objectif, c'était de faire venir des personnes qui viennent jamais au spectacle. Donc, on s'est retrouvé à faire un spectacle sur la chasse, autour de la chasse. Ce qui n'était pas évident, parce qu'on n'est pas forcément... Voilà, on est sur des dynamiques complexes, notamment pour un artiste. Et je sais que le public qui a été le plus difficile à atteindre, c'était pas les chasseurs qui étaient contents, mais c'était ceux qui étaient anti-chasse. Et nous, c'était comment on se retrouve, surtout que, bon, voilà, on était... Donc, c'était un spectacle qu'on a fait sur les chasseurs, sur les chassés aussi. Mais il y avait matière, puisque la mythologie, les mythes, Actéon dans la mythologie, etc. Il y avait des mythes très très forts là-dessus. Et on a collecté aussi. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes d'entre nous qui sont assez sensibles à cette parole de collectage, qui ont passé 2-3 jours, qui avaient une grosse matière de collectage avec une association de chasse. Et nous, on a travaillé à partir de cette matière, plus des mythes, plus des contes inuits, etc. Parce qu'il y a beaucoup de contes... de Sibérie, etc., qui magnifique pour raconter les étoiles, pour raconter le monde, qui se sert de ce personnage de chasse. Et ça nous a amené à réfléchir sur la forme. Donc on s'est retrouvé à créer une forme qui était une table avec la petite nappe à carreaux, là, mais de 8 mètres sur 2,50 mètres pour que nous puissions jouer sur cette table, mais aussi autour de cette table, et le public est comme convié à cette table, puisqu'on a créé... l'idée, c'était de former un U. Donc, ça ne s'est pas joué beaucoup, mais on a pu faire plusieurs représentations de ce spectacle qui s'appelait Alaou. Alaou, c'est le cri pour lorsqu'il y a la chasse au sanglier. Voilà. Qui est un peu la bête noire du chasseur dans les Ardennes et environ... Voilà, donc on avait fait ce spectacle-là. On a fait aussi un spectacle qui s'appelait Epic Fantasy, où on a travaillé là autour d'une œuvre commune qui était les quatre fils Aimon, qui est un petit peu le cycle arthurien de Champagne-Ardennes, quoi, et de tout ce côté de la Meuse. Et on avait travaillé au château de Sedan. Voilà, et on avait fait une déambulation comptée dans le château. Donc voilà, et là, pareil, c'était... comment on travaille ce répertoire, ce cycle-là, dans plusieurs espaces, à plusieurs, voilà. Et ça a été à chaque fois... mais en tout cas, ce qui est commun, c'est toujours cette idée d'œuvre collective.
Le français est la langue maîtresse de ce jeu. Malgré tout, dans vos tournées, dans les régions différentes, il y a parfois des expressions particulières, spécifiques. Est-ce que vous vous en jouez aussi dans votre proposition à l'adresse du public dans certaines régions? Là, vous parliez d'Alaou.
Oui.
Mais est-ce que ce mot arriverait justement sur le plateau?
Ah oui, je pense que c'est un nom commun, il arriverait, il serait très intéressant avec ce H sur une lettre compte triple, tout de suite on a 12.
Ce que je voulais savoir, c'est que Alaou, c'est une expression qu'on entend très peu. Si chaque région avait son terme ou des termes.
Alaou, c'est vraiment un terme, je crois, assez générique. Hein. C'est le cri de ralliement. On le connaît peu parce que on connaît Alali. Alali, c'est pour le cerf. On connaît moins Alaou. Mais Alaou, ça nous semblait chouette parce que Alaou, voilà, parce que c'est plein de voyelles, parce que c'était effectivement, c'était, on parlait de brainstorming. Est-ce que je pouvais trouver un autre mot si le Scrabble j'avais pas le droit? Là, c'était compliqué. Mais nous, on cherchait plein. On est plusieurs pour ce spectacle-là autour de la chasseur et des chasseuses, des chasseurs et des chassés. Alaou, ça nous a semblé être, voilà. Fort, etc. Et peut-être qu'Alali, on connaît un peu mieux. Voilà.
Vous parlez de chasseurs. D'autres catégories de professionnels ou de loisirs sont aussi dans l'axe de vos spectacles
Voilà. Bon, par exemple, là, c'est vraiment parce qu'on a eu une commande et qu'on a relevé le défi. Hein. On n'est pas pro-chasseur, hein. On n'est pas anti-chasse non plus. C'est très complexe. Mais nous, ça nous a permis aussi de travailler ce répertoire-là, mythologie, conté, etc. Sinon, on s'est retrouvé effectivement dans le répertoire, ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des quatre fils Aymon. On s'est retrouvé aussi à raconter des contes italiens dans une ville, Bar-le-Duc, qui nous a semblé matcher avec ces contes truculents de la Renaissance italienne, parce que la pierre, c'est une pierre dorée, et on le racontait en été, et ça se prêtait bien. Voilà. Donc oui, je ne sais plus quelle était la question, mais on...
C'était par rapport... Là, vous parliez du vocabulaire des chasseurs, ouais. Mais est-ce qu'il y a d'autres catégories professionnelles ou de loisirs ou d'occupations qui ont leur propre vocable ? Et donc, est-ce que vous en jouez également ?
On en a joué. La Renaissance italienne, forcément, on s'est plongé dans ce vocable-là. De la Renaissance italienne, on a en tout cas c'est-à-dire dans la verve truculente où on dit énormément de métaphores pour dire tout simplement que le soleil se lève, hein, mais donc on joue avec des champs sémantiques, voilà, par exemple, là tout à l'heure, ce matin, on était en train de se dire, tiens, la chanson de Nibelungen, donc, qui raconte Lord du Rhin, Siegfried, etc., sur une langue très particulière qui est celle de Claude Métra. Et on s'imprégnait de sa langue. Voilà. Et sa langue, elle est brumeuse. On ne sait plus où est le rêve ou la réalité. On est toujours dans quelque chose de très spiralé au niveau de... Bon, on se demande, nous, dans notre corps, dans notre voix, à plusieurs, comment on retraduit ce que ça a fait écho. Voilà, pareil, là, on se disait que petit à petit, Mathieu Hepp, par exemple, s'intéresse beaucoup aux jeux vidéo, aux jeux de rôle. Et c'est que nous, en tant que conteurs, comment on s'imprègne et aussi comment on va communiquer avec les rôlistes. Et moi, il y a un domaine qui m'intéresse beaucoup, sur lequel j'ai envie de travailler et qu'on va avoir l'occasion de travailler prochainement, c'est les escape games. Donc, c'est moins une question de lexique ou de vocabulaire, mais c'est comment ce métier-là, qui est conteur, peut se retrouver ailleurs que sur un plateau, ailleurs qu'en médiathèque, mais véritablement composé avec les outils et le gameplay, le jeu de rôle, l'escape game en escape room, comment ça peut se marier tout ça. Et donc, il faut trouver effectivement un jeu commun, un langage commun, un terrain commun. Et c'est ça que, par exemple, le collectif Frondelès se pose comme question actuellement. Voilà.
Fred Duvaux, est-ce que vous avez un site internet, que ce soit le Frondelès ou personnellement? Alors, pour vos spectacles.
Alors, le collectif Front de l'Est n'a pas de... Il a une page Facebook, mais sinon, il est distillé dans les différentes compagnies. Il y a toujours une page dans l'Allégresse du Pourpre, qui est la compagnie de Fred Poujard, dans Rebond d'Histoire, dans Les Mots du Vent. Donc ça, c'est les compagnies des membres du collectif Front de l'Est. Et moi-même, j'ai un site dans lequel je parle aussi du collectif Front de l'Est. J'ai une page qui s'appelle... C'est simple, fredduvaux.com.
Tout simplement.
Oui.
Fred Duvaux, merci beaucoup d'être venu sur RDW pour nous annoncer donc votre spectacle ce mercredi 11 septembre. Absolument. À 20h.
Voilà.
Ça sera à Louvraison, à l'ancien gîte de Roquebelle, à Recoubeau-Jansac.
C'est ça. À partir de... Alors, c'est... Il y a une partie à partir de 5 euros. Voilà.
Oui. Et est-ce qu'il y a nécessité de réserver ?
Ça peut toujours être une bonne idée de réserver, mais je pense que voilà.
D'accord. Voilà. Le contact ou un contact
pour... Alors là, moi, j'ai pas.
D'accord.
Là,
je mettrai le lien Facebook de l'événement.
Ça sera le mieux.
Et le public verra ensuite. Ouais. Je vous souhaite une bonne soirée. Ah, et pour terminer l'émission, donc On parlera peut-être présenter ce morceau de la bicifre.
Ah oui, alors tout simplement dire quand même qu'effectivement ma mère, au-delà de l'amour de langue qu'elle m'a transmis, c'est qu'elle elle est une fan absolue du classique et que la musique classique est très très présente dans ce spectacle. Sa présence ou sa non-présence quand la maladie avance, et notamment des œuvres pianistiques, puisqu'elle nous a communiqué, à moi et à mes frères et sœurs, le piano. Et donc ce sont des œuvres pianistiques, essentiellement qui sont présentes qui servent à la fois de bande-son et au-delà dans ce spectacle. Mais effectivement, à un moment donné, comme échappée, il y a ce morceau dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est beaucoup plus folk, voilà, un peu issu de la Motown, qui est de ce La Bicifre, voilà, dont le titre est très long, mais c'est Crying, Logging, Loving, Lying.
Bonne soirée.
Crying never did nobody no good, no how. That's why I don't cry. That's why I don't cry. Laughing sometimes does somebody some good somehow. That's why I'm laughing now. That's why I'm laughing. But did me no good, no how, no how. That's why I can't love you now. That's why I can't love you. Did nobody no good.